Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Notre Seigneur nous a laissé sa parole que nous allons lire maintenant. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Ce sera le texte de la prédication qui sera ensuite soutenu par deux autres textes qui nous donneront un peu des éléments de contexte. Donc Hébreux 11, les versets 24 à 28. Hébreux 11, 24 à 28. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Afin de nous remettre un peu dans le contexte, nous allons retourner dans l'histoire qui nous parle de Moïse. Et vous savez tous que Moïse, si on veut connaître son histoire, il faut aller dans quel livre biblique ? Dans l'Exode. Exactement, c'est dans l'Exode que l'on trouve l'histoire ou le récit de la vie de Moïse. Donc Exode 2, nous lirons les versets 1 à 15. Exode 2, 1 à 15. Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qu'il lui arriverait. La fille du Pharaon descendit vers le Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord du Nil. Elle aperçut le coffret au milieu des roseaux et envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, « Faut-il que j'aille t'appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin d'allaiter cet enfant pour ton compte ?»« Va !» lui répondit la fille du Pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, elle amena la fille du Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant. Et voici deux Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit sûrement l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Jusqu'ici, cette lecture, et nous allons au chapitre 12 du même livre d'Exode. Chapitre 12, et nous lirons les versets 21 à 32. Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. » Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos fils à perpétuité. Quand vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donne, selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous diront « Que signifie pour vous ce rite ?», vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna, et les Israélites s'en allèrent. Ils firent exactement ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout premier-né du bétail. Le Pharaon se leva de nuit, lui, tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort. Dans la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites aussi. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit, votre gros bétail, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi aussi. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu.
Il y a 27 ans, Lee Strobel a publié son livre intitulé « Jésus, la parole est à la défense ». Strobel raconte comment il est venu à la foi en Christ après avoir fait des recherches sur la résurrection. Strobel a commencé comme journaliste d'investigation et athée fervent. Il s'était donné pour mission de réfuter la résurrection de Jésus-Christ et la foi chrétienne. Il partait du principe que la foi chrétienne était fausse. Il pensait qu'il s'agissait d'un mythe inventé à une date ultérieure. Mais après avoir étudié le Nouveau Testament et la résurrection, il a conclu qu'elle était bien eu lieu et il est venu à la foi en la personne de Jésus-Christ et en sa résurrection. Au lieu d'écrire un ouvrage attaquant la foi chrétienne, il a écrit un ouvrage pour la défendre. Strobel a troqué son métier de journaliste contre celui de pasteur. Il a ensuite consacré sa vie au ministère de la proclamation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes-vous, comme Strobel, déjà posé cette question. D'où vient votre foi? Depuis quand la foi chrétienne existe? Est-il, comme le dit notre société, que le christianisme s'est séparé du judaïsme il y a 10 000 ans? Ou notre foi est-elle en réalité beaucoup plus ancienne? Voyons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a à dire sur les origines de notre foi. Nous verrons dans notre passage d'aujourd'hui, que le passage que la foi, c'est-à-dire en Christ, remonte à bien avant la remise de la loi au mont Sinaï. L'auteur de l'Épître aux Hébreux affirme que la foi en Christ remonte avant même qu'Israël ne devienne une nation au mont Sinaï. Nous avons parcouru l'Épître aux Hébreux. Lors de notre première lecture, nous avons vu comment le livre est structuré autour de la suprématie du Christ. Lors de notre deuxième lecture, nous avons vu au chapitre 8 comment la nouvelle alliance en Christ est supérieure à l'alliance mosaïque qui la précédait. Depuis, nous avons étudié le chapitre 11 qui nous montre l'héritage ancien de notre foi. Le chapitre 11 commence par ancrer notre foi dans la perception de notre Créateur invisible. Le chapitre se poursuit en retraçant la foi d'Abel à Moïse. La foi se manifeste différemment dans la vie de chaque personne en fonction des circonstances, des épreuves que Dieu orchestre dans leur vie. Nous voyons que la foi de tous ces individus, d'Abel aux parents de Moïse, est une foi en leur Créateur, est en sa provision future. Mais leur foi ne semble pas aussi distincte, aussi clairement définie par l'espérance dans le Messie à venir. Cela change avec Moïse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la foi de Moïse s'est formée autour d'une espérance messianique. Moïse anticipait manifestement la venue du Messie d'une manière que les générations précédentes ne faisaient pas. Mais comment Moïse aurait-il pu prévoir le Messie? Comme aurait-il pu prévoir le Christ avant que la loi, les prophètes et les apôtres ne les révélaient? Alors notez que les mots Messie et Christ signifient la même chose. L'un vient simplement de l'hébreu et l'autre du grec. Alors, de quelle révélation de Dieu Moïse dispose-t-il avant le Sinaï? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne la réponse lorsqu'il parle au chapitre 8 et 10 des ombres du Christ que l'on trouve dans l'Ancien Testament. La grandeur du Christ est telle qu'il jette une ombre sur tout l'Ancien Testament. Nous verrons quelles ombres du Christ ont nourri la foi de Moïse en Christ et comment elles peuvent nourrir notre foi aujourd'hui. Nous examinerons le chapitre 11, versets 24 à 28 de l'Épître aux Hébreux. Dans les versets 24 à 26, nous voyons la foi de Moïse qui anticipe la récompense supérieure du Christ. Lisons ces versets ensemble, s'il vous plaît. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Alors, dans notre dernier sermon sur l'Épître aux Hébreux, nous avons examiné la foi des parents de Moïse. Leur foi s'est manifestée dans la protection de la vie de leur fils nouveau-né. Par leur foi, les parents de Moïse ont préservé sa nouvelle vie. Et ils ne savaient pas encore comment Dieu allait utiliser leur fils, mais ils ont resté fermes dans leur foi en Dieu. Mais à propos de Moïse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au verset 26 que Moïse a considéré l'opprobre du Christ comme une chose, comme une plus grande richesse, c'est-à-dire que les trésors de l'Égypte, car il regardait à la récompense. Alors, quelle déclaration surprenante! Bien sûr, on pourrait s'attendre à ce que Moïse ait foi en son Créateur invisible, comme ceux qui l'ont précédé. Mais comment Moïse a-t-il pu percevoir le Christ? Comment a-t-il pu percevoir le Messie si tôt dans le plan de Dieu? Rappelez-vous qu'à ce stade de l'histoire du salut, Dieu n'avait pas encore révélé la loi au mont Sinaï. Ni les prophètes, ni les apôtres n'avaient encore témoigné du Messie. Le peuple de Dieu ne possédait pas encore l'intégralité de la Bible. Quel témoignage existait donc à cette époque pour éclairer la foi de Moïse? Qu'avait dit Dieu à son peuple au sujet de la venue du Messie? Nos réponses se trouvent sans doute avant le chapitre 2 de l'Exode. Quelle écriture entre le chapitre 1 de la Genèse et le chapitre 2, chapitre 1, c'est-à-dire de l'Exode, vous vient à l'esprit qui annonce la venue du Messie? Oui, c'est ça, Genèse 3, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, merci. Monique, rappelez-vous que dans Genèse 3, Dieu a promis à l'un des descendants d'Ève qu'il vaincra le diable, qui avait introduit la mort et le péché dans notre monde. Dieu prophétise, que la semence de la femme dans Genèse 3 écrasera la tête du serpent. La promesse d'un libérateur inspire les parents à se tourner vers la génération suivante, à rechercher cet enfant qui délivrera les âmes de l'humanité. Lorsque des enfants naissent dans la Genèse, nous voyons leurs parents exprimer leur espoir. Peut-être cet enfant s'avérera-t-il être celui qui recherche, celui qui attend. Nous voyons Ève exprimer son espoir lorsqu'elle donne naissance à son premier enfant, Caïn. Nous la voyons exprimer son espoir lorsqu'elle donne naissance à son fils, Seth. Cet enfant pourrait-il être celui que Dieu a annoncé pour écraser la tête du serpent, pour vaincre Satan, l'ennemi de nos âmes? Lorsque Noé naît, quelques chapitres plus loin dans la Genèse, son père Lamech exprime également son espoir que son fils sera celui qui les délivrera de la malédiction du péché. À la naissance de Noé, la mère dit « De la terre que le Seigneur a maudite, celui-ci nous délivrera de notre travail et de la peine de nos mains. » Mais aucun de ses enfants n'a répondu à l'espoir de salut de ses parents. L'un après l'autre, ils ont tous échoué à attendre la gloire de Dieu. Ils se sont tous révélés incapables de nous sauver du serpent qui fait la guerre à nos âmes. Cette espérance messianique n'est tout à fait pas morte. Elle est survécue et nous la voyons se manifester dans la foi de Moïse et de ses parents. Quelle grâce que leur foi ait été transmise à leur fils, même s'il a grandi dans la maison de Pharaon, même s'il a grandi loin du peuple de Dieu, à l'abri dans une certaine mesure des souffrances qu'il allait endurer. Si vous êtes parent, il est naturel que vous souhaitiez que votre enfant ait une bonne vie, une vie réussie et épanouissante, une vie meilleure que celle que nous avons menée. Mais comment, en tant que chrétiens, devons-nous concevoir une vie bien vécue? Comment définir le succès? Quel genre de succès devons-nous souhaiter pour nos enfants? Notre société nous dit que le succès se mesure à un salaire compétitif, une maison somptueuse et des amis puissants. Mais la foi de Moïse le conduit à renoncer à ces choses dans l'attente de quelque chose d'encore plus grand. Par la foi, Moïse a renoncé à la richesse, au luxe et à la vie facile de la royauté égyptienne. Il ne le fait pas par altruisme esthétique comme un moine ermite qui veut simplement être seul. Non! On nous dit qu'il le fait par solidarité avec le peuple de Dieu. Moïse préfère souffrir avec le peuple de Dieu, souffrir la persécution dans l'attente du Messie à venir, plutôt que de se joindre à Pharaon et à sa cour dans leurs festivités, plutôt que de se joindre au monde dans le luxe bâti sur le dos du peuple esclave de Dieu. Moïse préfère se joindre au peuple de Dieu dans ses mauvais traitements. Donc, si vous n'êtes pas chrétien ou si vous êtes un jeune chrétien, évaluez bien le prix à payer pour suivre Jésus. Puisque le monde l'a persécuté et crucifié, Ne soyez pas surpris lorsque le monde marginalise, déshonore et persécute les chrétiens. Ne soyez pas surpris lorsque les chrétiens sont persécutés et calomniés pour avoir fait le bien. En deuil, oui, dénoncez l'injustice, oui, présentez cela au Seigneur dans la prière en demandant « Jusqu'à quand, Seigneur, jugeras-tu les méchants ?» Mais ne soyez pas surpris. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, je vous encourage à aider les autres à évaluer sérieusement le coût de la vie à la suite du Christ. Oui, évangélisez-les. N'hésitez pas à leur montrer le Christ. Et lorsqu'ils répondent pour la première fois professant leur foi en Christ, aidez-les à évaluer le coût de la vie des disciples. Aidez-les à comprendre que suivre le Christ signifie renoncer à soi-même, prendre sa croix et suivre le Christ. Je pense que nous hésitons à interpeller quelqu'un qui professe le Christ pour la première fois. Nous pouvons être tellement ravis par leur profession de foi, surtout si nous avons prié pour leur conversion pendant des années. Je pense que les parents sont particulièrement sensibles à cela. Nous prions régulièrement pour le salut de nos enfants. Nos enfants veulent peut-être nous faire plaisir à nous, leurs parents, et professer leur foi parce qu'ils savent que c'est ce que nous désirons pour eux. Mais n'oublions pas que c'est une marque de bonté que d'aider quelqu'un à évaluer le cours de la vie chrétienne. C'est une bonté que le Christ a manifestée à ses disciples dans les évangiles. Si le Christ a manifesté une telle bonté aux autres, comment pouvons-nous refuser de faire de même? Après les avoir aidés à évaluer le cours de la vie des disciples, aidez-les à entrevoir la gloire à venir. Expliquez-leur clairement que la vie chrétienne est une vie de gratification différée. Qu'est-ce que j'attends par la gratification différée? Prenons l'exemple de mes enfants. Mes enfants sont jeunes. Dès que nous posons quelque chose sur la table, ils réclament immédiatement. Si nous leur donnons le choix entre quelque chose maintenant et quelque chose de meilleur plus tard, ils prendront ce qui se trouve juste sous leur nez. Ils n'ont pas encore appris à renoncer à une chose dans l'attente d'une chose meilleure. La foi de Moïse n'est pas seulement un exemple de satisfaction, de gratification différée. C'est un exemple de gratification différée et de persécution endurée pour cette satisfaction, pour cette satisfaction de tout dans l'étente. Pardon. Alors cet exemple de Moïse, c'est un exemple de satisfaction différée et de persécution endurée pour cette satisfaction. Le tout dans l'attente d'une récompense plus grande dans le cadre de sa persécution avec le peuple de Dieu et de son renoncement au luxe de la cour d'Égypte. Moïse a quitté l'Égypte. Au verset 27, il est dit que Moïse a quitté l'Égypte par un acte de foi. Alors, lisons ce verset, s'il vous plaît. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors, on nous dit que Moïse a quitté l'Égypte, non pas parce qu'il avait peur de Pharaon, mais à cause de sa foi en un Dieu invisible. Moïse percevait le Dieu invisible comme supérieur. Mais comment cela s'accorde-t-il avec le récit historique de l'Exode? Moïse n'a-t-il pas d'abord fui Égypte après avoir tué un maître d'esclaves égyptiens, par crainte que Pharaon ne le tue en représailles? Alors l'épître, c'est-à-dire l'auteur de l'épître aux Hébreux ne peut certainement pas faire référence au premier départ de Moïse d'Égypte lorsqu'il a fui la colère de Pharaon dans Exode 2:15. Afin de comprendre la foi de Moïse, afin de voir comment sa foi a grandi, nous devons comparer ce premier départ d'Égypte avec son départ définitif. Permettez-moi de rappeler l'histoire telle qu'elle est racontée dans l'Exode. Le bébé Moïse avait été adopté par la fille du Pharaon. La fille du Pharaon employa la mère biologique de Moïse pour l'allaiter. Et l'enfant Moïse fut rendu à la fille du Pharaon dès qu'il fut en âge de manger des aliments solides. Moïse a grandi comme un enfant adoptif dans la maison du Pharaon, jouissant du luxe de la royauté. Tandis que son peuple était réduit, à l'esclavage par les Égyptiens. À l'âge de 40 ans, Moïse est sorti et a observé les souffrances de son peuple, les Israélites. Il a vu un maître égyptien battre un esclave hébreu et a discrètement tué le maître. Dès que cet acte a été rendu public, le pharaon a cherché à tuer Moïse en représailles. Moïse a été contraint de fuir pour sauver sa vie. Ce premier départ ne semble pas correspondre à notre passage dans l'Hébreu 11, 27. Où nous venons d'apprendre que Moïse n'avait pas peur du Pharaon. Mais nous devons nous souvenir du reste de l'histoire. Nous devons nous rappeler que Moïse est retourné en Égypte, puis est reparti une deuxième fois. C'est à ce deuxième départ que l'auteur de l'Épître aux Hébreux doit faire référence. Lorsque du premier départ d'Égypte, nous voyons un Moïse qui fuit la colère de Pharaon, probablement par crainte de mourir. Mais lors du deuxième départ d'Égypte, nous voyons un homme changé. Lors du deuxième départ d'Égypte, Dieu vient d'utiliser Moïse pour mettre Pharaon et toute l'Égypte à genoux. Moïse ne craint plus que Pharaon lui ôte la vie. Au contraire, Dieu vient de rendre Pharaon impuissant face aux 10 plaies qui ont ravagé l'Égypte. Pharaon est impuissant devant Moïse le prophète. Moïse a grandi dans la foi. Fini le Moïse justicier qui prend les choses en main en tuant lui-même le maître des esclaves. Moïse le justicier a été remplacé par Moïse le prophète, par Moïse l'homme de Dieu, par Moïse qui n'a plus rien à craindre du Pharaon. Moïse a appris à percevoir la voix de son Créateur invisible. Moïse est devenu un prophète du Dieu très haut, apportant la parole de libération de Dieu à son peuple et à s'élevant sous la direction de Dieu contre l'ennemi du peuple de Dieu. C'est par la main de Dieu et non par celle de Moïse que les Israélites seront délivrés de l'esclavage. Ce n'est qu'en tant que porte-parole, prononçant fidèlement la parole de Dieu, qu'en tant qu'humble instrument entre les mains de Dieu, que Moïse doit faire sortir le peuple de Dieu de son emprisonnement en Égypte. Alors peut-être comme Moïse, vous êtes-vous trouvé châtié par Dieu pour que votre foi grandisse. Peut-être avez-vous essayé à un moment donné d'améliorer la situation du peuple de Dieu pour vous rendre compte que vous en étiez totalement incapable. Pour vous rendre compte que vous n'aviez pas encore suffisamment grandi dans la grâce pour les aider comme vous le souhaitiez. Mes amis, si vous désirez apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu, conseillez quelqu'un dans l'Église à partir de la parole écrite de Dieu, mais que vous vous trouvez maladroit ou incompétent, incapable de prendre soin de son âme comme vous le devriez. Alors prenez espoir. Nous adorons le même Dieu qui a nourri Moïse dans sa foi et qui l'a utilisé pour délivrer le peuple de Dieu de l'esclavage. Nous adorons le même Dieu qui a conduit Moïse, le justicier orgueilleux, en exil, qui a humilié Moïse, le prince orgueil d'Égypte, pour en faire un berger, exilé dans le désert de Médien. Moïse a été humilié au point d'hésiter lorsque Dieu l'a appelé à être prophète et à retourner en Égypte pour libérer les Israélites. Qu'est-il advenu du prince justicier orgueilleux qui avait été si prompt à prendre l'initiative, si prompt à ôter la vie à un maître d'esclaves? Il avait disparu, remplacé par un instrument bien plus utile entre les mains du Seigneur. Alors, mes amis, je vous encourage à creuser profondément dans vos dévotions quotidiennes. Isolez-vous avec Dieu. Fuyez tous les luxes et les pièges de notre société qui sont si prompts à nous distraire. Trouvez un endroit calme et rencontrez Dieu chaque jour dans sa parole. Cherchez-le là où il se trouve, dans la lecture quotidienne de la Bible, dans la prière, dans l'adoration avec le peuple de Dieu. Ramenez la parole de Dieu à vos frères et sœurs chrétiens. Ministérez-leur la parole de Dieu, priez pour eux et soumettez-vous à eux à votre tour. Mes amis, si vous ne ressentez aucun désir de conseiller les autres à partir de la parole de Dieu, si vous ne vous souciez pas de leur âme, alors demandez-vous pourquoi. Est-ce que parce que vous n'êtes pas encore chrétien, parce que vous n'avez pas encore rencontré notre Seigneur, parce que votre cœur n'est pas encore tourné vers Jésus-Christ? Si tel est le cas, mes amis, détournez-vous de vos péchés et placez votre foi en Jésus-Christ. Asseyez-vous aux pieds du divin médecin, le docteur des âmes, et profitez avec nous de ses soins. Que signifie mettre sa foi en Jésus-Christ? Quelle opération le Christ peut-il accomplir pour sauver nos âmes? Eh bien, mes amis, même si les effets salvateurs ne sont pas encore manifestes chez tous ceux qu'il a choisis, et même si tous ses patients ne sont pas encore rendus compte, le Christ a déjà accompli leur salut. Christ a accompli le salut de son peuple en ôtant leurs péchés sur la croix. Sur la croix, Christ a pris la place de son peuple. Sur la croix, Christ a sacrifié sa vie et a été exécuté à leur place, afin que, par sa mort, ils puissent avoir une vie nouvelle. C'est là le cœur de la foi chrétienne, la mort expiatoire de Jésus-Christ à la place de son peuple. L'expiation n'est pas une doctrine nouvelle. Le concept d'expiation est présent tout au long du système sacrificiel de la loi de l'Ancien Testament. L'expiation est enseignée dès le début. Dans le chapitre 3 de la Genèse, lorsque Dieu sacrifie un animal à la place d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché pour la première fois. L'expiation est enseignée dans Genèse 4, lorsque Abel sacrifie le premier-né de son troupeau, et que cela plaît au Seigneur. L'expiation est également enseigné ici dans le 10e plaie de l'Exode, chapitre 12, la mort des premiers-nés. Dans la dixième et dernière plaie, Dieu met Pharaon à genoux en faisant mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés, sauf ceux dont les montants des portes étaient recouvertes du sang d'un agneau pascal, sacrifié à leur place. Alors regardez avec moi la foi de Moïse dans l'expiation, dans Hébreux chapitre 11, verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Alors, quelle foi en la miséricorde de notre Dieu? Quelle foi est-ce que là, qui regarde vers l'extérieur, loin de toute œuvre d'autoconservation, loin de tout espoir de se sauver soi-même? Au contraire, cette foi regarde avec confiance vers Dieu et ses instructions. Elle regarde avec certitude vers la parole du Seigneur qui dit qu'il sauvera, grâce à un sacrifice expiatoire, une vie donnée à notre place. L'âme incrédule se rebelle contre cet enseignement. Elle insiste sur le fait qu'elle peut faire le bien toute seule, qu'elle peut expirer à tout le mal qu'elle a pu faire, qu'elle en sait plus que Dieu. Elle se rebelle contre la bonté de notre Dieu, contre la pureté à l'obéissance parfaite du Christ au Père. Elle se rebelle contre l'œuvre expiatoire du Christ pour son âme, contre la simplicité et la beauté de l'Évangile. Elle refuse de se soumettre à Dieu, au Christ, c'est-à-dire. Mes amis, avec qui êtes-vous d'accord aujourd'hui? Vous identifiez-vous au jeune Moïse, satisfait du luxe et des divertissements que notre société met à votre portée? Vous identifiez-vous à Moïse le justicier, à qui prend la justice en main sans se tourner vers le Seigneur pour être sauvé? Si tel est le cas, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ. Considérez la foi chrétienne, une foi ancienne, une foi qui dure, une foi solide, qui vous demanderait de renoncer au luxe royal que vous appréciez. Une foi qui vous mettrait au défi de renoncer à tout cela pour une vie de compassion, pour une vie de souffrance avec le peuple de Dieu, au lieu de fermer les yeux sous la souffrance des autres. Au lieu de vous éloigner du souci du salut des âmes, rejoignons tout le peuple de Dieu. Utilisons nos moments de calme pour puiser dans le trésor de la parole de Dieu, pour faire ressortir ses richesses et les partager généreusement les uns avec les autres. Amenons nos frères et sœurs qui souffrent au médecin divin. Supportons notre sœur affaiblie par sa dernière séance de chimiothérapie. Reconnaissons sa souffrance quotidienne et ne négligeons pas de la porter dans nos prières à notre Seigneur. Persévérons dans la prière pour nos collègues aux connaissances musulmans qui ne prennent peut-être pas leur foi ou la nôtre très au sérieux, ou qui sont peut-être déterminés à nous convertir à l'islam. Alors persévérons dans la prière pour eux tous. Nous ne savons pas comment Dieu agira. Il peut encore leur accorder la foi, comme il l'a fait pour notre frère Lee Strobel. Il peut encore susciter de nombreux autres défenseurs de la foi parmi ceux qui s'opposent obstinément à notre Seigneur. Puissons-nous grandir dans la foi et la grâce en intercédant pour les autres devant le trône de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'accomplissement de toutes les espérances et le salut même du peuple de Dieu, qui est l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.